Matière à penser, Dominique Rousset.
Et la suite de notre série Dans un monde inégal, qu'avons-nous en commun ? Cette semaine, nous tentons en effet de rapprocher deux réalités contemporaines. La croissance des inégalités, phénomène devenu universel au XXIe siècle, durement ressenti par les populations écartées du bien-être, et la réapparition, comme une issue peut-être possible vers un avenir mieux partagé de ce que l'on appelle les communs. Sous ce terme sont réunies en effet de multiples formes de réappropriation par les citoyens de leurs économies, de leurs relations sociales, de leur accès aux biens naturels et culturels. Et c'est de culture que nous parlons ce soir. Inégalité dans l'éducation, inégalité territoriale, fracture numérique, bien sûr. En face, peut-être, des idéaux communs, le patrimoine et la connaissance. Bonsoir Françoise Benhamou.
Bonsoir Dominique Rousset.
Professeur à l'Université Paris 13 et à Sciences Po, spécialiste, faut-il le rappeler, de l'économie, de la culture et des médias, chroniqueuse également. Vous êtes très souvent venu à France Culture pour délivrer vos chroniques. Je rappelle aussi, vous aviez été chargé en septembre 2009, c'est déjà un petit peu ancien, mais quand même, par le département des études et des statistiques du ministère de la Culture, d'une étude sur le modèle économique du livre numérique en France, à l'étranger. On aura largement l'occasion d'en reparler. Vous avez très récemment contribué avec d'autres ouvrages que je vais rappeler à un ouvrage collectif vers les communs, vers une république des communs. Alors vous avez dit, Françoise Benhamou, repenser la place de l'économie, de la culture dans un monde qui, après l'avoir détesté, se rend soudain compte qu'il a une légitimité et qu'il serait bien ennuyé de le perdre. Vous pensez toujours la même chose ?
Oui, je crois même que l'économie est revenue en force dans la culture, peut-être presque trop en force. Hein, c'est-à-dire qu'elle est devenue un argument pour justifier que l'on investisse dans la culture, que l'on protège la culture, etc. Et on a cette espèce de focalisation sur l'argumentaire économique aujourd'hui.
Oui, mais il n'empêche qu'aucun domaine de l'économie, de tout ce qui est culturel, n'échappe vraiment à l'économie. Hein, que l'on parle du spectacle vivant, du marché de l'art, du patrimoine, on va y venir, du livre.
Je peux vous donner un exemple très simple. Par exemple, quand vous construisez une médiathèque, bien entendu, elle a un coût, donc il y a un aspect économique. Mais en même temps, c'est absolument pas pour les retombées économiques de la médiathèque que vous construisez cette médiathèque. C'est en vue de ce qu'elle apporte, justement, peut-être au bien commun.
Alors, Françoise Benhamou, remontons un peu peut-être l'histoire. On vous a peut-être souvent posé ces questions-là, mais tout de même, les années 60, bien sûr André Malraux et d'autres qui l'ont suivi, avaient pris conscience d'inégalités territoriales. Commençons par parler de celle-ci. Et donc avait répondu par un équipement des infrastructures, de construction d'infrastructures, équipement des régions, rendre la culture partout accessible, c'était le credo.
Il y a eu un grand effort qui a été fait en la matière. Alors du temps de Malraux, ça s'est surtout construit autour des fameuses maisons de la culture, qui existent encore sous un format différent, si je puis dire. Et puis du temps de Lang aussi, il y a eu un très gros effort qui a été fait, notamment dans un domaine qui avait été largement sous-estimé et négligé, qui était celui des bibliothèques, d'une certaine manière. Moi, je trouve que notre territoire est quand même assez bien doté en offres culturelles. Pour vous donner quelques exemples, des lieux de lecture publique, on dit il y en a sur tout le territoire aujourd'hui. 7700 bibliothèques, 5800 points d'accès. Si vous prenez les cinémas, il y en a... Alors, évidemment, dans les villes, qu'elles soient moyennes ou grandes, beaucoup moins... Et pas du tout, même à la campagne, mais tout de même, on a 2045 cinémas en France, et ça représente à peu près le double et même un peu plus d'écrans, puisque avec un cinéma, vous avez plusieurs écrans. Vous avez aussi beaucoup de lieux de spectacle qui ont été labellisés par le ministère de la Culture. Il y en a de l'ordre de 4500, et puis bon, faut ajouter des scènes musicales, etc. Donc je crois que du côté de l'offre, l'effort a été considérable. Il reste des trous, si je puis dire, dans la raquette.
Vous parlez quand même d'inégalité territoriale encore aujourd'hui. Hein.
Oui, et un des trous, si je puis dire, que je trouve important et à souligner, c'est peut-être du côté des conservatoires. On en a 440 en France, alors on pourrait se dire c'est pas mal, mais ils sont quand même très concentrés, notamment en Île-de-France ou dans quelques autres régions. Et justement, ce sont des lieux d'apprentissage de la musique. Donc là, ça prend un sens particulier, il y a un effort encore à faire.
On peut continuer à faire un petit peu un tour d'horizon. Pourquoi est-ce que vous parlez encore d'inégalité alors, si on arrive à ces résultats ?
les inégalités, elles sont très fortes du côté des consommations culturelles. Vous savez, le ministère de la Culture fait une très très grosse enquête. Il en a fait une en 1973. Il a refaite en 2008. On attend les résultats en 2018 de la dernière. Alors, c'est un petit peu dommage qu'il y ait tant de temps qui passe. C'est une volonté d'excellence. C'est vrai que ces enquêtes, elles sont absolument remarquables. On aimerait qu'il y ait des enquêtes intermédiaires peut-être moins remarquables, mais qui diraient quelque chose des inégalités territoriales. Mais si vous regardez déjà 73-2008, c'est absolument cruel hein, comme constat. C'est-à-dire qu'on a les mêmes écarts, ou quelquefois des écarts encore plus grands, entre, disons, les CSP+, les cadres, et puis les CSP-, j'aime pas trop l'expression, les employés, les ouvriers. Et les écarts demeurent, et ils sont considérables, ils peuvent être de 10 points, de 20 points, de 30 points, entre pourcentage de fréquentation des établissements culturels, des institutions culturelles, des expositions, la lecture, etc., entre ces catégories socio-professionnelles supérieures et les autres. Et donc ça, c'est quand même très cruel, d'autant plus qu'on a beaucoup fait, comme je vous disais, en termes territorial. On a fait aussi beaucoup d'efforts du côté de l'information sur cette offre culturelle, et on reste quand même avec des inégalités très fortes.
Est-ce qu'elles sont liées à l'éducation ?
C'est pour ça, moi, premier mot qui vient. C'est évidemment la question. Alors, c'est une question récurrente. Alors, comme toutes les questions récurrentes, quelquefois, on en est un peu lassé. On a envie de botter en touche pour faire autre chose. Mais moi, je crois vraiment que le nœud de l'affaire est là. Et ce qu'on a fait du côté de l'éducation, on a fait des choses, mais c'est largement insuffisant. C'est pas une fois par an, dans le meilleur des cas, et quelquefois tous les 2 ans ou tous les 3 ans, qu'il faut emmener les enfants au théâtre. C'est plusieurs fois par an, et ça devrait être inscrit dans les programmes comme une obligation. Le théâtre, le concert, la visite d'exposition, les musées, etc. Mais vraiment comme une obligation au même titre que d'autres disciplines scolaires.
Oui, on entend parler d'éducation artistique depuis des années.
Oui, on a fait des choses. Alors, il y a eu un grand plan d'éducation à l'école du temps de Lang et Tasca, et Catherine Tasca, quand Jacques Lang a été ministre de l'éducation notamment. Mais ça ne suffit pas, il faut vraiment que ce soit quelque chose, d'abord ça a été pour partie abandonné, il faut que ce soit quelque chose de systématique, d'obligatoire et vraiment inscrit dans les programmes. Et ça, je crois que c'est absolument essentiel. Ça ne suffira pas, mais cette espèce de familiarité qu'on pourrait construire avec la culture, c'est le nœud de l'affaire.
Mais alors, vous qui observez depuis assez longtemps ces questions-là, je peux me dire au passage, vous avez publié une économie de la culture qui en est, je crois, à sa 8e édition.
Exactement.
Vous nous direz un peu ce qui a changé depuis la première. Donc, vous qui observez cela, est-ce que ça vient, par exemple, je ne sais pas, moi, d'une, peut-être, de pas suffisamment de cohésion entre un ministère de l'Éducation nationale et un ministère de la Culture? On entend souvent parler de ce type de difficultés, vous l'avez observé aussi?
C'est pas faux, c'est un héritage de la période de Malraux.
Pas de la rivalité quand même.
Rivalité, peut-être pas, mais vous savez, on a hérité de cette idée portée par Malraux, qui au demeurant était un immense ministre, mais qui avait l'idée que le rapport à la culture, il émanait de la grâce. C'est-à-dire, on entrait, à l'opéra, et on tombait d'amour pour la musique de l'opéra. On sait que c'est plus compliqué que ça, que ça implique quand même des apprentissages, des familiarités. Et dans cette configuration, c'est vrai que les deux ministères n'ont pas su beaucoup se parler, et c'est vrai que le ministère de la Culture s'est toujours méfié de l'éducation, parce qu'il a eu peur d'être avalé par l'éducation en quelque sorte. Et du côté de l'éducation, la culture, c'est un sujet fondamental, mais en même temps un sujet marginal.
Mais par exemple, privilégier un enseignement de l'histoire des arts, ce qui est évidemment demandé par le ministère de la Culture, mais lesquels?
De quoi
parle-t-on? Est-ce qu'on parle de culture rock? Est-ce qu'on parle de bande dessinée? Est-ce qu'on parle... Il y a des choix qui sont quand même très compliqués.
Absolument, il y a des choix qu'il faut laisser, je dirais, il faut laisser les professeurs choisir ce qu'ils ont envie d'enseigner, mais c'est vrai aussi qu'il faut dégager du temps. Et il faut aussi des professeurs qui soient formés. Et c'est un petit peu comme le numérique. On ne s'invente pas. Je suis professeur, mais on ne peut pas enseigner tout et n'importe quoi. Il y a quand même des familiarités que les professeurs, eux aussi, doivent avoir avec certaines disciplines. Et l'histoire de l'art, même les professeurs d'histoire, ne l'ont en fait pas apprise.
Bien sûr.
Et donc, je crois qu'il faut enseigner aussi aux enseignants et faire des propositions aux enseignants, leur donner une espèce de menu et leur dire, voilà, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous vous sentez d'enseigner, de faire passer à vos étudiants, à vos élèves? Et cela d'autant plus que, aujourd'hui, avec les moyens du numérique, on peut peut faire beaucoup de choses.
Facteur d'inégalité encore, vous dites, on a installé des théâtres partout, on a des conservatoires, on a des lieux d'exposition artistique, enfin il y a beaucoup même de spectacles dans la rue, enfin tout cela existe très largement. Est-ce qu'alors on a un manque d'information?
Je pense que oui, l'information
de médiation, doute, on va dire autrement médiation
d'information, largement. C'est sans doute insuffisant. Il faut faire beaucoup de choses. Il faut aller vers les gens. Il faut leur expliquer ce qu'ils peuvent trouver comme offre tout près de chez eux. Et d'ailleurs, dans l'idée du pass culture qui est promue par Emmanuel Macron, sur laquelle j'ai beaucoup de doutes moi sur le côté 500 euros, etc. Mais en revanche, il y a un volet que je trouve très intéressant.
Qu'est-ce qui vous fait douter avant de venir à ce qui vous intéresse?
Ce qui me fait douter, c'est que j'ai jamais pensé que c'était par l'argent qu'on attrapait les gens. Et en particulier pour la culture, donner 500 euros à quelqu'un qui a pas envie d'aller dans un concert de musique classique, ben il ira pas, il revendra son billet ou il fera autre chose. Donc je pense que ce qui est en amont, ce qui est important, c'est effectivement à la fois les apprentissages, mais aussi l'information. Et ça, c'est absolument essentiel. Essayer d'expliquer à quel point un musée, c'est pas un lieu intimidant aujourd'hui, c'est un lieu où vous trouvez une cafétéria, une boutique, des gens sympas, vous pouvez vous asseoir dans une salle, vous n'êtes pas obligé de voir toutes les salles du musée s'il y en a qui vous intéressent pas. Tout ça, il faut le faire passer et aussi peut-être faire savoir que l'offre culturelle était extrêmement riche et que même à proximité, pour des gens qui croient qu'il n'y a rien à proximité, il y a toujours quelque chose qui se passe à proximité.
L'avantage du pass culture, je vous ai interrompu.
Et alors, dans l'idée du pass culture, il y a le côté donc argent qui m'intéresse moins, mais il y a l'idée d'ouvrir une plateforme très facile d'accès et dans laquelle vous sauriez ce qui se passe à proximité de chez vous. Quand vous êtes en Île-de-France, c'est pas un problème. Quand vous êtes dans un petit village, là, ça devient particulièrement intéressant.
Qu'est-ce qu'un commun pour la culture? Quelle définition donneriez-vous des communs? Ce terme qui, je l'ai dit en commençant, et c'est le sujet qui nous occupe cette semaine, revient en force. Car évidemment, cela existait autrefois. Et puis, on a le sentiment que face à ces inégalités, on a besoin de retrouver ce commun.
Alors c'est un peu un mot valise. C'est un peu un mot valise, les communs. C'est-à-dire que on a envie avec la culture de se dire ah ben tiens voilà, ça me fait penser à l'héritage commun de l'humanité, à la liste de l'UNESCO par exemple, c'est-à-dire au patrimoine au sens le plus large du terme. Ça peut être des bâtiments, mais ça peut être aussi des normes, des usages, des langues, etc. C'est ce qu'on a en commun. Mais quand on parle de commun, quelquefois on pense aussi à autre chose, dans la lignée de Elinor Ostrom, c'est autre chose, hein, c'est-à-dire le commun au sens strict du terme, ce sont des ressources partagées qui sont gouvernées par des communautés. Et là, on pense à quelque chose de privé, peut-être de plus local, une ressource que l'on partage au niveau local. Dans la culture, je pense que l'acception peut être un petit peu différente. Et puis, il y a l'idée des savoirs qui seraient un commun, c'est-à-dire quelque chose que l'on pourrait partager, gratuitement ou non, là n'est pas la question, mais en tous les cas, qu'il s'agirait de partager entre des gens qui auraient un intérêt à rencontrer ces savoirs.
Oui, définition des communs, d'autres disent jouir sans dépenser, justement. C'est envisageable.
Oui, c'est envisageable. En même temps, je suis toujours un petit peu méfiante vis-à-vis de cela parce qu'on est très ambigu dans la culture sur cette question de la gratuité. C'est-à-dire qu'on a envie que tout ça soit gratuit. Et en même temps, on sait bien que tout n'est pas gratuit. Preuve en est d'ailleurs ceux qui mettent très en avant la question de la rémunération des auteurs. Donc comment on fait pour essayer à la fois d'avoir des communs, mais en même temps non seulement de rémunérer des auteurs, mais éventuellement aussi de rémunérer toute une chaîne de valeur qui permet à des livres d'être publiés, etc. Donc on est toujours dans cette ambivalence.
Est-ce que, par exemple, si on questionne un peu toutes ces polarités, je crois que c'est vous qui les avez appelées des polarités confortables, justement entre payant et gratuit, entre élitiste et populaire, entre privé et public, donc entre État et marché, où faut-il situer le curseur de votre point de vue? Est-ce qu'on va trop loin du côté du privé, du côté de la dépense solliciter les mécènes, ou est-ce que au contraire il ne faut pas trop jouer la démocratisation à tout craint?
Je pense que le curseur...
Et à n'importe quel prix, je veux dire.
Je pense qu'en matière culturelle, en tous les cas, le curseur est amené à bouger sans cesse. Et par exemple, on a un débat en ce moment extrêmement intéressant. Il y a un certain nombre de fondations qui ont été créées, qui sont donc des fondations privées, et qui apportent vraiment leur pierre à l'offre culturelle. Donc d'un côté, on peut se dire c'est formidable, d'autant plus que toutes ne sont pas à Paris ou à Neuilly. Hein. Il y en a au fin fond de la Bretagne, il y en a dans le sud de la France, etc. Donc ça, c'était quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est du mécénat. Seulement le problème du mécénat, c'est que c'est très partiellement de l'argent privé. En réalité, lorsque un mécène dépense 100 euros pour la culture, ça lui coûte à peu près 30 euros. Donc ça veut dire que le mécénat supposé privé est en réalité en grande partie de l'argent public, aux deux tiers, en gros, pour aller vite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on laisse les mécènes faire des choix en matière, par exemple, d'installation d'une fondation, etc. Ce sont des choix totalement privés, alors que le financement est en large partie public. Et cette question-là, je trouve qu'elle n'est pas assez, pour employer un anglicisme, adressée aujourd'hui. C'est une question très importante, parce que si le mécénat, c'est en grande partie de l'argent public, alors le public doit avoir aussi son mot à dire sur l'usage qui est fait de cet argent.
Pour prendre un exemple, la Fondation Vuitton, qui donne ses expositions remarquables d'ailleurs, hein, sur Basquiat, sur Egon Schiele, est-ce que c'est Beaubourg qui aurait dû avoir ces expositions-là ?
Non, non, moi je pense que c'est très intéressant que que cette complémentarité existe. La question qui se pose, c'est la question du financement et de ces fondations, qui est largement en réalité public. Et la deuxième question qui peut se poser aujourd'hui pour Beaubourg, pour le Grand Palais, pour d'autres lieux, c'est maintenant vous avez des nouvelles compétitions pour l'argent privé. Car Beaubourg et le Grand Palais, surtout par exemple, vivent largement de cet argent privé qui va aller aux fondations. Et donc là, il y a un nouvel équilibre inventé et on est au tout début de l'histoire.
Ira-t-on moins dans des fondations privées, pensez-vous, que dans des établissements publics ouverts à tous par définition ?
Non, je pense que, vous savez, il y a une forte demande pour la culture. Et donc cette demande, elle peut s'adresser à la fois à Beaubourg et à la Fondation Vuitton. Pourquoi pas ? Ce que je crains, moi, c'est une compétition malsaine. Et donc il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire que on peut avoir une complémentarité vertueuse ou une compétition malsaine et l'histoire n'est pas écrite.
Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras, je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays et je lui dois ce que je suis. Au nord, c'était les corons, la terre, c'était le charbon. C'était l'horizon, les hommes des mineurs de fond.
France Culture, matière à penser. Dominique Rousset.
Juliette, une interprétation très personnelle d'une vieille chanson de Bachelet, les corons, que nous avons choisi, Françoise Benhamou, pour parler de ces inégalités en termes de culture aussi et des communs qui pourraient les corriger. Parce que dans cette chanson, au fond, inégalité sociale, inégalité territoriale, accès à la culture, fierté du père qui la voit apprendre, milieu modeste.
Ah, c'est une chanson magnifique. Et je ne sais pas pourquoi elle m'a fait penser à ce qui a été fait dans le cadre du Louvre-Lens. Bon, évidemment, à cause des corons, mais parce que, dans le fond, qu'est-ce que le Louvre a eu envie de faire ? Enfin, l'État français, le ministère de la Culture, c'était de créer un petit Louvre pas un sous-Louvre, un petit Louvre, dans une ville qui avait été vraiment meurtrie par la désindustrialisation et qui méritait l'offre la plus magnifique, excellente. Et d'ailleurs, quand on va au Louvre-Lens, il y a cette galerie du temps que l'on peut traverser et où on comprend l'histoire de l'art d'une manière absolument... limpide, avec différentes cultures qui sont mêlées, différentes civilisations, et c'est quelque chose de très beau, et le Louvre a choisi tout à fait délibérément d'y mettre des œuvres de premier plan. Donc ça, on voit bien que...
Pour vous, c'est un excellent exemple de ce que l'on doit réussir
de ce que l'on
sur
doit
les
faire.
Territoires.
Et en même temps, c'est un exemple qui rencontre là encore ses limites. Pourquoi ça a été fait? À la fois pour que la culture aille effectivement dans les territoires et l'excellence, et puis évidemment que viennent là des enfants des écoles, d'ailleurs c'est gratuit, hein, le Louvre-Lens, et puis aussi avec l'idée que les conservateurs iraient là et n'hésiteraient pas à aller là, puisque on crée aussi un lieu de restauration des œuvres. Donc c'est un lieu très intéressant. Alors quelles limites? On en attendait beaucoup en termes de retombées économiques. Pour l'instant, c'est pas ça. Les gens viennent, ils descendent du TGV, depuis Paris en général, parfois ailleurs, et puis ils visitent et ils repartent. Donc en termes de retombées, c'est
décevant. Retombées sur la région, bien sûr.
Bien sûr, sur la région, et tout particulièrement sur la ville. Alors, ça ne veut pas dire que la messe est dite et que ça ne se fera pas. Mais il faut peut-être du temps, beaucoup de temps. Et il ne faut pas s'arrêter au Louvre, il faut qu'il y ait d'autres choses dans la ville qui justifient un parcours culturel. Et ça, c'est compliqué à mettre en œuvre. Puis la deuxième chose, oui, les enfants des écoles viennent au Louvre, mais est-ce que pour autant il y a véritablement une démocratisation culturelle qui se met en place? À partir de là, ça c'est une autre affaire.
Mais alors justement, la part très importante pour les établissements nationaux installés à Paris, dans les subventions, dans l'aide de l'État et même des villes, comme si Paris cumulait les avantages, Paris ou peut-être d'autres très grandes villes, c'est un point que l'on a souligné à plusieurs reprises, les études de la prospective du ministère de la Culture le relèvent, je ne sais pas ce qu'on dira en 2018, de grandes inégalités dans les subventions. L'Opéra de Paris est beaucoup mieux soutenu que les opéras provinciaux. Mais comment l'explique-t-on?
Comment on l'explique? Alors, on l'explique, ça ne veut pas dire que j'en sois d'accord. Mais les grands établissements nationaux sont à Paris ou en Ile-de-France. Et ils sont en large partie fréquentés non seulement par des Parisiens et des habitants de l'Ile-de-France, mais aussi par des étrangers qui viennent là. Et donc l'idée, c'était de soutenir ces établissements nationaux à ce titre-là. Mais c'est vrai qu'on arrive à quelque chose d'absurde où Paris cumule deux avantages. Un, le fait d'être Paris, c'est-à-dire une ville qui est quand même très riche. Et d'autre part, le fait d'avoir ces grands établissements nationaux qui, puisqu'ils ont cette qualité d'établissements nationaux, sont largement subventionnés par l'État. Et donc le résultat, c'est vrai que le ministère de la Culture, dans ses dépenses, et Dieu sait qu'il a une très faible marge de manœuvre, eh bien dans ses dépenses, dépense beaucoup pour Paris. Ça, c'est incontestable. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra corriger.
On va parler du numérique dans un instant, Françoise Benhamou, sur lequel vous avez beaucoup réfléchi. Vous êtes favorable, pour rester dans une actualité, à la participation financière auprès des visiteurs, par exemple, pour visiter des édifices religieux, des cathédrales. Oui, les grandes cathédrales françaises, c'est un exemple. Patrimoine bien commun, mais bien commun payant.
Ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas, parce que ce sont des établissements religieux, mais ce sont aussi, en fait, des musées. Et quand les gens viennent à la messe, on les fait pas payer, bien entendu. Mais quand ils visitent, et ça existe aussi en Italie d'ailleurs, pourquoi ne pas leur demander quelque chose? Parce que c'est une contribution qui permet de faire face à des besoins qui sont considérables en matière patrimoniale. Et sinon, on a, vous savez, avec la gratuité, beaucoup d'effets d'aubaine. C'est-à-dire des gens qui seront prêts à donner, mais si on leur demande pas, bon, bah, finalement, ils entrent, ils visitent et ils repartent. Et ils n'ont rien donné. Et je pense que c'est un vrai sujet. Pourquoi pas leur demander? Moi, ça ne me choquait pas. C'était une proposition de Stéphane Bern, d'ailleurs, sur laquelle il est très vite revenu.
Et vous le regrettez?
Pour ma part, oui.
Responsabilité d'un gouvernement, justement, priorité à la transmission, priorité à la préservation, priorité à l'éducation. Éducation, on en a dit un mot, bien sûr. Saupoudrage, le mot a souvent été utilisé, versus des choix assumés?
Je crois qu'il faut assumer des choix. Il y a une vraie question en matière culturelle quand on prend du recul. Le ministère de la Culture est trop enfermé, je dirais, dans la reconduction systématique des subventions ad vitam aeternam. Et je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui ouvrir le jeu, d'autant plus qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, des start-up qui émergent, dans le monde associatif, beaucoup de choses qui se passent du côté de la culture. Je pense qu'il faut les les soutenir. On ne peut pas soutenir tout le monde de la même manière tous les ans. Je pense qu'il faut que le ministère de la Culture assume de temps en temps des choix et des discussions franches avec de grands établissements, non pas pour leur couper les vives, bien entendu, mais pour peut-être de temps en temps repenser les subventions. Je vous donne un exemple tout simple. Par exemple, le Centre National de la Cinématographie, le CNC, bénéficie d'un très gros budget qu'il alloue ensuite au monde du cinéma qui... Voilà.
Près de 250 films par an produits.
Oui, tout à fait. Mais
France.
Est-ce qu'il ne faut pas
que
réfléchir de temps en temps à cela? C'est-à-dire qu'il y a certains films qui sortent à peine, qui ont une sortie qu'on appelle technique, simplement pour recevoir les subventions. Je pense que tout ça mérite d'être réfléchi de temps en temps. Le CNC le fait. Il devrait être aussi plus partageur. Ce qui reçoit, par exemple, une taxe sur les télécoms au titre du fait qu'on regarde la télévision et qu'on regarde du cinéma sur Internet, mais on regarde beaucoup de choses sur Internet aujourd'hui. Et peut-être qu'il faudrait partager un peu mieux avec le monde de la musique, avec le monde du livre, revoir tout cet ensemble.
Partager en gros son succès avec d'autres industries culturelles.
Mais son succès, ses taxes et ses subventions qui sont affectées.
On pourrait aussi aller jusqu'à un Centre National de la Musique, encore un projet.
On en parle.
Encore
alors
un
c'est
projet
un projet
qui n'est pas abouti.
J'ose à peine en parler parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle et que rien ne se passe. Je pense que c'est un très joli projet qui serait intéressant de faire un peu le pendant du CNC du côté de la musique. Et je pense que d'ailleurs il faudrait des relations extrêmement fortes entre le monde du cinéma et le monde de la musique.
Dans tous ces exemples que vous venez de nous donner, bien entendu le numérique est présent déjà et même très fortement présent. C'est encore une autre économie qui ne pourra pas se déployé contre le consommateur, mais le consommateur résiste beaucoup sur la partie payante. Le numérique, un Eldorado et un champ de mine, avez-vous dit quelque part. Vous avez beaucoup écrit, mais je l'ai relevé quelque part.
Oui, oui. Eh bien, vous savez, on dit souvent qu'avec le numérique, on a le pire et le meilleur, le pharmacone, le poison et le remède en même temps. Et je crois que c'est tout à fait juste. Pourquoi? Parce que le numérique, c'est l'accès. C'est quand même l'accès de tous. Disons-le, 94% des ménages aujourd'hui ont une solution de téléphone mobile et 85% une connexion Internet. Donc, vous voyez, le numérique, il est quand même partout, même s'il y a des problèmes de connexion.
Mais la fracture existe encore.
Oui,
tout à
fait. On peut tout à fait en parler de cette fracture numérique. Elle existe, mais à mon avis, il ne faut pas la voir tant sur les questions de connexion qui se résolvent de mieux en mieux et qui finiront par être totalement résolues. Donc, la connexion, chacun là, c'est plutôt sur la manière dont on se connecte, la manière dont on fait usage du numérique. Je dirais qu'il y a une manière minimale, peut-être on pourrait dire passive, et puis il y a des manières beaucoup plus maîtrisées. Et c'est cette maîtrise du numérique qui est importante aujourd'hui. Alors il y a une fracture numérique évidemment dans les pays en développement, mais ça c'est une autre question. Mais dans notre pays, quand on parle de fracture numérique, à mon avis, il faut plutôt réfléchir à la maîtrise très inégale de l'outil Internet, plus qu'à l'accès à Internet, même s'il y a encore quelques problèmes d'accès.
Oui, problème générationnel, problème social aussi, beaucoup de gens.
Alors il y a un problème générationnel qui est de moins en moins important, car les vieux, ils sont de plus en plus connectés et même très souvent très bien connectés. Et ça, c'est quelque chose de formidable parce que, évidemment, le numérique ne rompt pas l'isolement, mais enfin quand même, ça permet des conversations numériques, comme on dit, et c'est très bien. Donc une fracture générationnelle, là aussi, en voie de diminution, une fracture sociale, c'est vrai. Et quand vous allez, par exemple, dans des médiathèques, vous voyez, par exemple, des gens qui sont en train de chercher du travail, qui n'ont pas
d'ordinateur.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les médiathèques ont cette fonction-là. Donc moi, je pense que la fracture, elle est vraiment du côté de la qualité de l'usage.
Si l'on revient sur les points dont on parlait, les innombrables lieux de culture que l'on trouve sur le territoire français, on peut parler aussi, grâce au numérique, d'un service public, alors cette fois de culture à domicile.
Ah, moi, je trouve ça un des grands apports du numérique, c'est...
Est-ce qu'on va mieux réussir avec ça qu'avec ce que l'on proposait autrefois? Est-ce que les populations que l'on souhaite toucher vont davantage avoir accès à la culture via le numérique ou pas forcément?
Alors, il faut
que de se rendre dans les lieux.
Il faut créer le point d'accroche. C'est toujours le problème. Si vous voulez, sur Internet, vous avez des milliards de pages qui sont en compétition. Est-ce que les gens vont
c'est
aller
un peu le problème,
sur le musée que peut-être ils ne visiteront jamais, mais qui est très agréable à visiter quand même sur Internet. On en voit quelque chose. C'est un pari. Ce pari-là, il faut le faire. Alors, de quelle manière, là aussi, l'école peut être un des lieux où on apprend et où, dans le fond, l'enfant, s'il est un peu émerveillé, va peut-être rentrer à la maison et montrer ce qu'il a vu à ses parents. Donc, le problème du numérique, c'est un outil formidable. Il faut trouver le moyen d'atteindre les gens, de leur dire, eh bien là, vous avez un site qui est passionnant. Par exemple, vous savez, les musées hollandais ont fait un travail formidable sur ce terrain-là. Ils ont tout mis sur le numérique. Ils ont choisi de tout mettre et d'ouvrir la possibilité pour les gens, qui que ce soit, de télécharger avec une très haute résolution des images, et ils peuvent faire ensuite des posters qu'ils mettent sur leur mur. Moi, je trouve ça formidable. Alors, qui y va ensuite, peut-être pas encore tout le monde, mais quand même, c'est un pas que je trouve très intéressant.
Est-ce qu'on sait déjà si cela amène des gens au musée après ?
Oui.
Alors, étudié
un petit peu, les musées disent que ça amène quand même des gens, alors dans une proximité quand même, c'est-à-dire que ce qui va être difficile, parce que les considérations sont évidemment plurielles, c'est de faire venir peut-être quelqu'un qui habite à Saint-Denis ou à Bobigny, jusqu'au musée hollandais. Ça, sans doute, ça va être difficile, mais déjà, qu'il ait cette accès-là, c'est un premier pas que je trouve important.
Quel doit être le rôle de la politique publique à ce stade ?
Ben justement, créer des sites de qualité, les faire connaître via l'école, via peut-être aussi des comités d'entreprise, je ne sais pas. Là, moi, je pense que la boîte à idées, elle est ouverte. Et ce qui est très important, c'est que le ministère de la Culture ne se dise pas « c'est moi qui vais faire », mais se dise « je vais faire remonter des idées de la part de jeunes, justement, qui veulent créer des start-up, etc. Par exemple, si vous visitez Chambord aujourd'hui, qui est un lieu quand même d'abord très visité et par une population assez hétérogène, au lieu de prendre un guide audio, vous pouvez prendre une tablette. Et alors là, vous allez visiter en 3D. Vous allez, par exemple, vous êtes dans la chambre du roi et vous regardez comment c'était meublé, qu'est-ce qui se passait, etc. Ce sont des choses qui sont extrêmement vivantes et qui permettent, à mon avis, de donner, pour quelqu'un qui peut-être n'est pas très cultivé, un autre rapport à la culture.
Vivante et ludique même.
Et ludique, voilà, c'est ça qui est très important.
Prenons un autre exemple, Françoise Benhamou, il apparaît d'ailleurs dans cet ouvrage collectif dont j'ai parlé sur les communs, alors c'est un petit peu moins attendu, mais on est toujours dans la culture, bien entendu, l'exemple de ce qu'on appelle l'open access pour les résultats de la recherche scientifique. Alors, la recherche scientifique, c'est vraiment un domaine très particulier, très défendu. On connaît cette question des publications, parfois dans des revues prestigieuses, mais coûteuses, avec des biais qui ne sont pas toujours faciles à connaître. Double objectif, cette fois, donc, démocratisation et rayonnement, bien entendu, de la recherche. Là, on est bien dans le cadre des communs. Des communs éditoriaux, des communs immatériels, je ne sais pas.
Vous avez absolument raison, et c'est vraiment dans cet esprit que j'écris ce chapitre, c'est-à-dire que pour moi, les résultats d'une recherche qui a été financée sur fonds publics appartiennent à tous. Et d'ailleurs, les chercheurs, c'est tout ce qu'ils souhaitent. J'ai commencé à m'intéresser à cela à propos des bibliothèques, et notamment des bibliothèques universitaires qui étaient littéralement ruinées par les abonnements à des revues scientifiques qui sont extrêmement coûteuses. Et il y a eu tout un mouvement de chercheurs pour dire « halte là ! Il faut quand même que les résultats de ces recherches puissent circuler, parce que ce qui est important dans cette circulation, c'est que ça va nourrir, comme pour la culture d'ailleurs, les recherches futures. La culture, par exemple, quand vous avez un artiste qui travaille, il travaille avec une connaissance plus ou moins grande, mais une connaissance de tout ce qui s'est fait et il en hérite. Eh bien, de la même manière, dans le domaine des connaissances, cela doit exister. Ce débat a été ouvert, en France notamment, mais plus généralement en Europe, car la Commission européenne souhaitait ouvrir le plus largement possible ses résultats de recherche, de manière gratuite, à la communauté non seulement des chercheurs, mais au grand public.
Oui, elle voulait un libre accès pour la recherche financée par le
financée
par le public.
Sur fonds publics.
Mais c'est pas toujours facile de savoir si on est financé sur fonds publics ou pas. Alors, l'exemple d'un chercheur qui travaille, je ne sais pas, au CNRS pour rester en France, mais qui par ailleurs hors du temps de travail ou de sa rémunération du CNRS, veut produire des résultats.
Alors, oui, vous avez raison.
Où le range-t-on, lui ?
Voilà, si vous avez une recherche très précise, hein, financée, par exemple, pour rester dans le domaine de la culture, par exemple, vous voulez justement analyser les inégalités territoriales, culturelles. Ça, si c'est financé sur fonds publics, ça a vocation à être publié de manière gratuite. Non, avec un temps qui permet justement aux revues, qui sont quelquefois et même souvent des revues privées, de pouvoir vivre, de pouvoir valoriser leurs publications, et ça, c'est absolument normal. Alors, pourquoi le faire ? Pourquoi est-ce important ? Parce que c'est un fonds commun, en quelque sorte, culturel. Et vous m'interrogiez, qu'est-ce qui est public et qu'est-ce qui n'est pas ? Alors, on va dire que ça, c'est public. Maintenant, si le même chercheur veut écrire dans une revue généraliste ou dans Le Monde, ou écrire un livre, alors ça, je dirais que ce sont les extensions de ses connaissances. Non, l'idée, c'est vraiment les résultats de la recherche proprement dite, ceux-là doivent être très vite mis à disposition de tous. C'est raisonnable, c'est ce qu'on appelle l'open access. L'idée, c'est que ce soit à disposition de tous et gratuitement au bout d'un an dans le domaine des sciences dures, c'est-à-dire les mathématiques, la physique, etc. Parce que là, la recherche va très vite en quelque sorte. Et dans le domaine des sciences humaines, au bout de 2 années. Et moi, j'avais fait la proposition, malheureusement, qui n'a pas été retenue pour l'instant, mais qui me semblerait tout à fait logique, pour que on conserve une pluralité de revues de sciences humaines de qualité, qui soient surtout pas publiques, mais qui soient privées, publiques, ce que l'on veut, mais en tous les cas vraiment plurielles, à ce moment-là, qu'il y ait une partie du financement qui a été donné pour cette recherche, soit affectée à la publication de ces recherches. De cette manière, les revues de sciences humaines ne se verraient pas lésées par le fait de mettre certains articles en libre accès sur Internet.
Les bibliothèques, par exemple, dépensent effectivement beaucoup d'argent pour s'abonner à des revues très coûteuses. Le problème, c'est quand même à la fois la légitimité de ces revues, leur réputation, la qualité quand même des articles qu'elles publient. Est-ce que l'on ne craint pas, et je sais que c'est avancé comme argument contre ce principe, de perdre justement en réputation et en qualité si on ouvre à l'accès public, si on aux États-Unis par exemple, je ne sais pas bien comment ils peuvent aussi vite renoncer. Ils ont des revues très chères, mais également très riches.
Ce mouvement est très largement américain.
Qui assèche les bibliothèques, oui.
Est très, très largement américain. C'est-à-dire, c'est venu, y compris même de prix Nobel, qui...
Parce que ça allait trop loin dans les prix.
Qui trouvaient que ça allait trop loin, mais qu'il fallait créer de nouvelles revues qui ressemblent à des communs et qui soient managés en quelque sorte avec des comités de lecture qui soient excellents, c'est-à-dire qu'on ait les mêmes critères d'excellence dans ce cadre-là que dans le cadre de grandes revues américaines qui sont portées par les grands éditeurs américains comme Wiley, Springer, etc. Donc il y avait vraiment cette idée-là de conserver la plus haute qualité scientifique. Sinon, je suis d'accord avec vous, ça n'a aucun sens.
Et oui, c'est-à-dire qu'il y a une telle réputation, une telle peut-être un peu excessive, mais enfin, les choses sont comme ça. L'autre obstacle, et je crois que vous l'aviez pointé aussi, sur cette histoire de réputation, de libre accès, donc de moins bonne qualité, les revues françaises ont tendance à inciter les chercheurs à écrire en anglais.
Ah, mais ça, c'est vrai, tout particulièrement dans
ma
discipline.
Écrire en anglais, c'est quoi ? C'est rentrer dans une bonne revue ?
Eh bien, parce que je dirais que l'excellence a été largement du côté de ces revues nord-américaines. Alors pourquoi ? Parce que aussi, alors pour une raison, peut-être qu'on a été un peu colonisé, disons-le, au point de vue scientifique, mais aussi pour une autre raison, c'est que l'anglais permet d'être lu dans le monde entier. Or, aujourd'hui, la recherche, elle est mondiale. Et je dirais que la compétition aussi entre les universités est mondiale. Et nous sommes, malheureusement, moi je le regrette un petit peu, dans des logiques de compétition entre universités largement basées sur les revues qui sont classées rang A, comme on dit, par le CNRS, etc. Et ces revues classées rang A sont souvent nord-américaines. Ouais. Donc là, il y a à mettre en place un système, ça ne se décrète pas du jour au lendemain.
Oui, mais effet pervers, du coup, si l'on publie en français, on est moins valorisé et on...
Je pense qu'on ne
passe pour faire un moins bon article.
Je ne pense qu'on ne peut publier qu'en bilingue si on veut être lu, ou alors il faut être publié dans des revues françaises et dans des revues américaines. Ça, pourquoi pas. Mais par exemple, moi, je suis au comité de rédaction d'une revue à laquelle je suis très attachée, qui est Esprit, qui est une revue historique. On a eu la chance d'avoir des subventions pour faire quelques traductions de grands articles en anglais. Et je pense que peut-être la politique publique doit mettre l'accent là aussi sur une vraie politique de traduction, en parallèle avec les efforts qui sont faits par les chercheurs eux-mêmes pour être publiés dans les deux langues.
Traduction et diffusion, donc, par le numérique. Numériser tous les fonds de notre patrimoine, ça doit être une des priorités pour des politiques publiques. Aujourd'hui, c'est là que devrait aller l'argent, les services d'archives, les bibliothèques, les musées.
La numérisation, je pense que c'est très, très important.
C'est coûteux ? Est-ce que c'est coûteux ?
C'est coûteux, bien entendu. Il faut savoir en même temps que ça n'est pas nécessairement la meilleure façon de conserver. Parce que vous savez, quand ensuite on passe d'un logiciel à un autre, d'un matériel à un autre, on risque d'avoir des pertes en ligne. Donc, il faut faire très attention. Je crois que la numérisation, c'est plus un moyen de diffusion qu'un moyen de conservation. Et je crois qu'il est toujours très important de conserver aussi des exemplaires papier, car le papier, en principe, ne meurt pas, enfin, sauf à une certaine période où on avait du papier de mauvaise qualité, mais là, on en est revenu.
Alors, François de Benhamou, ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que le numérique n'est pas gratuit, même si on vient mettre en ligne là, toutes ces sommes de recherche. Il faut donc inventer quand même des modèles. Hein. On va, du paiement traditionnel à l'unité. Je sais que tout cela est débattu depuis des années maintenant. Comment faire pour cette question classique, lutter face aux géants?
Alors, si je reste sur le champ de la culture...
On est toujours sur le champ de la culture,
sur le champ
bien
de
entendu.
La culture,
et du partage.
Quel est le domaine où, vraiment, je dirais, on a pris le numérique dans la figure? C'est d'abord la musique. Ça a été en premier lieu la musique, ensuite la presse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une longue période de tâtonnement et de perte en ligne, si je peux dire, de perte d'argent. La musique a perdu pratiquement la moitié de son chiffre d'affaires. Elle remonte aujourd'hui la pente. Et comment elle la remonte? En faisant face à la question, sans la dénier, hein, sans dire le numérique, on va essayer de s'en passer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé d'inventer de nouveaux modèles. Ça s'appelle notamment le streaming. Hein. Alors le streaming avec beaucoup d'inconvénients, parce que le streaming paye très mal les auteurs, les artistes, les compositeurs. Et donc là, il y a un travail à faire aussi pour aller plus loin. Mais on sent qu'aujourd'hui, on essaye de faire avec, non seulement de faire avec, d'apprivoiser le numérique et d'apprendre à travailler avec. Dans la presse, c'est encore très, très difficile. Hein, c'est-à-dire les modèles, on ne les a pas trouvés. Regardez le père des journaux, c'est-à-dire le New York Times. Le New York Times a d'abord eu un modèle gratuit, puis un modèle payant, puis de nouveau gratuit, puis de nouveau payant. Avec son, ouais. Voilà. Et on tâtonne, on finira par trouver, mais en attendant, c'est vrai que ça fait beaucoup de morts sur le chemin, si je puis dire. C'est-à-dire des entreprises qui peuvent disparaître, des journaux qui ont beaucoup de mal à vivre et qu'on voit aussi rachetés quelquefois d'une manière, je dirais, discutable.
On n'a pas parlé du financement participatif, c'est partie des modèles possibles?
Ah, c'est un modèle essentiel et extrêmement intéressant.
Et qui se développe bien, que vous observez.
Alors, qui se développe très bien, qui marque le pas dans un domaine qui ne concerne pas la culture, qui est celui du prêt, puisqu'il y a des prêts participatifs. Mais pour ce qui est des donations participatives, parce que c'est ça pour l'essentiel, la culture, quelquefois avec des petites récompenses, ça marche bien. On sent que ça a plusieurs fonctions. C'est un financement complémentaire, mais c'est aussi une manière, dans le fond, de rencontrer ce public ex ante, c'est-à-dire avant même d'avoir construit le projet. Enfin, on l'a imaginé, mais on ne l'a pas encore construit. Il faut trouver un public, il faut trouver des gens qui soutiennent ce projet, et c'est un test du caractère peut-être intéressant du projet. Ça ne se substituera pas à la puissance publique.
Mais pour le coup, on rejoint cette ambition des communs, des initiatives citoyennes pour partager.
Ce sont des
la culture.
Pas toujours, mais souvent, ce sont des initiatives citoyennes et c'est sans doute un des avenirs de la culture.
Merci infiniment, Françoise Benhamou. Merci beaucoup pour tous vos travaux. Donc, je l'ai dit, spécialiste de l'économie de la culture depuis assez d'années pour observer toutes ces évolutions. Votre tout dernier ouvrage, Politique culturelle, fin de partie ou nouvelle saison, s'est posé un point d'interrogation. C'est paru à la Documentation française. Et j'ai mentionné aussi, mais on va en reparler avec d'autres auteurs, Vers une république des communs, dans lequel vous faites paraître un article sur le numérique et sur cette question de la recherche. Merci encore.
Merci.
Dans Dans un monde inégal, qu'avons-nous en commun? C'est donc notre série de cette semaine. Et merci à notre petite équipe de réalisation, Anne-Laure Chanel en compagnie d'Élise Le ce soir, Sandrine Chaperon et Catherine Donnet pour la préparation, pour la documentation. Allez voir sur notre site France Culture toutes les publications que nous avons à vous proposer, à vous conseiller, sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour préparer ces émissions. Et si vous le souhaitez, sur Twitter, @domrousset. Très bonne soirée.